Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous à travers nos 52 radios partenaires dans tout le Niger ainsi que sur nos 7 télévisions partenaires. Je suis Boubacar Oumarou, au plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du forum qui a pour thème l'impact du changement climatique sur la production du mil dans la région de Tillabéri, quelle alternative pour s'y adapter. Avec une production qui avoisine 2 millions de tonnes, le Niger est le second producteur de mil en Afrique de l'Ouest et du centre après le Nigeria. Il occupe le 5e rang au niveau mondial. Cette céréale représente 90% de la production céréalière totale, soit 54% des cultures fluviales. Elle est la culture sahélienne par excellence du fait de son adaptation aux conditions particulières de production, d'après un bulletin d'information du Réseau national des chambres d'agriculture, en abrégé RECA, publié en 2012. Des études récentes ont montré que les rendements des cultures comme le mil et le sorgho vont baisser plus de 10% au Niger dans le cadre de l'augmentation des températures de 2 degrés Celsius et d'une baisse ou d'une légère augmentation des préoccupations à l'horizon 2050. L'une des conséquences du changement climatique. Pour échanger sur cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir comme invité le commandant Madougou Seyni de la Direction régionale de l'environnement, de la lutte contre la désertification et du développement durable de Tillabéri. Bonsoir.
Bonsoir.
Rabaha Hanna, président de la plateforme paysanne au titre de la région de Tillabéri. Bonsoir. Monsieur Adamou Issaka, de la direction régionale de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, en abrégé INERA, de Tillabéri. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, chers invités, je vais commencer tout de suite par avec le commandant Madougou. Mon commandant, qu'est-ce que c'est que le changement climatique?
Je suis fier d'être invité pour ce débat. Donc, en un mot, le changement climatique, c'est un terme large et ça a plusieurs définitions. Mais aujourd'hui, on entend par changement climatique les différentes variations climatiques qu'on observe, que nous sentons, même si je peux le dire ainsi, au sein des différentes variations climatiques. Donc ça a plusieurs conséquences, comme aujourd'hui, c'est vraiment un terme qui a la une. Dès qu'on dit le changement climatique, tout un chacun sait vraiment aujourd'hui, automatiquement et d'ailleurs, de quoi il s'agit. Donc, c'est des variations qu'on observe au niveau donc, de ces différentes variations-là, dont la pluie, comment ça s'appelle, les différents changements de température qui s'exposent. Donc, tout ça-là est lié à un certain nombre de variations. Tout ça-là constitue aujourd'hui les variations qu'on observe au niveau du changement climatique.
Vous parlez d'une ramification de variation, vous voulez faire allusion à quoi concrètement?
Donc, ce qui varie, les variations, donc, comme vous l'avez suggéré, donc, c'est les variations qu'on observe au niveau, par exemple, au niveau de la pluviométrie, par exemple, au niveau des chaleurs, parce que dans l'État, nous ne connaissons pas ces types de chaleurs qui vont maintenant jusqu'à 45 degrés, voire 49.
Les
fortes chaleurs que nous sentons ici à Tillabéri. Il faut on reçoit jusqu'à 49 degrés ici à Tillabéri. Et dans le temps, nous ne connaissons pas ça. Donc, et comment ça s'appelle les postes de sécheresse qui font des fois 15 jours, voire 20 jours, que nous ne connaissons pas dans le temps. Donc, c'est tout ça là qui sont les variations.
Donc, on va en revenir. Comment se manifeste ce
Donc, ça se manifeste, comme je commençais même à le dire, à travers les canicules qui sont les fortes chaleurs. Aussi la rareté des pluies, aussi la diminution, comment ça s'appelle, de l'hivernage, c'est-à-dire la période, la saison des pluies, qui était de 5 mois, et actuellement, ça ne dépasse pas 3 mois, 2 mois, voire 3 mois au maximum. Donc tout ça, là, ça se manifeste de cette manière. Dans le temps, nous connaissons pendant ce mois, nous sommes en juillet, Angers, partout dans la région, dans l'État, on cultivait. Et aujourd'hui, il y a des villages où jusque-là, on n'a même pas semé. Donc c'est le retard de la pluviométrie. Ça aussi, à part ça, il y a des vents violents qui nous menacent. Donc vraiment, ça, de la poussière qui est un peu partout. Donc vraiment, tout ça là, constitue donc, des manifestations de ces changements climatiques-là.
Mon commandant Madougou, comment le changement climatique affecte-t-il alors de l'autre côté eu égard à nos champs de mille?
Bon, le changement climatique affecte toute la production sylvopastorale et halieutique même. Parce que bon, maintenant revenons sur le cas des champs de mille, donc qui est la production agricole. Donc ça l'affecte parce que les pluviométries sont faibles. Donc il y a des postes de sécheresse. La saison ne commence pas à temps. Les vents violents qui viennent, ils ramassent tout ce qu'il y a comme humus, tout ce qu'il y a comme, comment ça s'appelle là, le top soil là, comme on le dit, qui est propre, qui est, comment ça s'appelle, riche en humus pour le développement du mil, il emporte tout. Et encore, donc, pour aller même ensabler les cours d'eau qui sont encore utilisés pour l'irrigation. Donc, vraiment, ça affecte. Et les fortes chaleurs aussi pendant, comment ça s'appelle là, pour la production irriguée, ça affecte ce côté-là aussi. Vraiment, nos champs sont lessivés, comment ça s'appelle là. Les fortes pluies aussi qui tombent des fois avec vélocité font en sorte que ça dégrade le sol complètement. Ça lessive le sol jusqu'à ce que le sol est devenu très pauvre.
Est-ce que pour vous, y a-t-il encore d'autres conséquences qui affectent toujours les champs du mil?
Oui, il y en a plusieurs, comme je l'ai dit. Donc il y a les chaleurs et comment ça s'appelle les postes de sécheresse qui font en sorte que des fois le mil commence à maturité, il y a comment ça s'appelle un arrêt brusque de la pluviométrie et ce qui achève donc comment ça s'appelle cette culture où la récolte est d'office mauvaise.
Je vais me diriger vers vous, Rabaha Hanna, de la plateforme paysanne. Que représente le mil pour vous?
Ok, merci. Et c'est ce que vient de dire. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. Donc, quand tu me parles du mil, je crois que le mil est la céréale aujourd'hui la plus cultivée à l'échelle nationale. Et quand tu prends l'exemple de Tillabéri, aujourd'hui, le mil est une représentation régionale par rapport aux autres cultures. Donc, ça veut dire que ça a une vocation très, très, très représentative au niveau de la région de Tillabéri. Donc, c'est un céréal vraiment que, après peut-être le riz, qui est consommé dans toute la région pour 2000.
Êtes-vous conscient du changement climatique et de ses conséquences?
Ça se voit déjà, parce que si ce n'est pas peut-être cette année qu'on a commencé à voir les pluies, peut-être en juin, parce que c'était même la première quinzaine de juin qu'on a commencé à semer. Donc ça fait plus de 5 ans aujourd'hui que c'était fin juillet ou bien début août qu'on commence à semer. Donc ça veut dire que ce changement climatique, nous les paysans, on l'entend seulement parler du changement climatique, mais on le voit devant nous maintenant.
Vous le vivez?
On le voit devant nous. On est en train de le vivre devant nous parce que ça se pratique. Tu sèmes, tu peux faire 30 mois sans pluie. Est-ce que tu vas? 30 jours sans pluie. Est-ce que tu vas? Et deux fois, c'est peut-être au début épiaison que la pluie s'arrête. Et ça fait à peu près 6 ans aujourd'hui que Tillabéri, en matière de mil, on n'arrive pas à récolter à 90%. On n'arrive pas à récolter à 90%, surtout le mil à Tillabéri. Quand tu regardes sur les 13 départements, peut-être c'est Kolo, un peu Saï, c'est même Saï, Kolo Saï seulement. C'est à Kolo Saï seulement que tu peux avoir 80% de récolte. Mais tous les autres départements, c'est à 50-70% sur les 13 départements.
Est-ce qu'à votre lecture, cette année aussi, la saison agricole se présente, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça se présente de la même manière comme ça affecte...
Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est le changement-là qui a amené que cette année, on est revenu sur les anciens systèmes. Cette année, on a semé à temps. Parce que c'était en début juin qu'on a commencé les premiers semis. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on n'était pas à 100% de semences par rapport à au niveau de la région. Mais quand même, cette année, on a semé très rapidement. Donc, ça veut dire que c'est le changement-là qu'on est en train de sentir. Ça fait 5 ans qu'on sème fin juillet ou bien début juillet. Et on n'a que 2 mois de saison. Et 2 mois de saison, ça ne peut pas faire mûrir, comment dirais-je, le mil. Le mil, logiquement, c'est 3 à 4 mois pour pouvoir récolter. Donc c'est déjà ça. On a déjà tendance à voir que vraiment ce changement-là cette année, peut-être que ça va nous amener à terme ou bien ça va nous lâcher encore. On le souhaite que ça nous amène à terme.
Et dans quelles conditions les agriculteurs et autres producteurs du mil de la région de Tillabéri abordent le début de la campagne agricole?
Cette année, c'est vraiment très satisfaisant par rapport aux années précédentes. Donc, on a commencé à semer, ça fait 2 ou 3 pluies. Quand je prends la région de Tillabéri, surtout Tillabéri que je suis, ça fait 3 pluies aujourd'hui qu'on a déjà eu. Ça fait 3 pluies, les premières pluies pour les semis, deuxième pluie pour... Les gens ont commencé même à déjà faire les premiers talages. Et comment dire, les premières cultures. C'est les premiers cercles-là, ça a déjà commencé. Donc, ça veut dire que cette année, ça s'annonce très bien pour la région de Tillabéri.
Est-ce que... Y a-t-il encore une autre lecture qu'on peut faire, encore d'autres conditions que les agriculteurs peut-être peuvent rechercher du fait d'accroître encore le rendement et aussi la bonne culture de la production du mil?
Oui, quand tu parles de rendement, le rendement, ça se trouve du début. D'abord, c'est la pluie. En deuxième position, c'est peut-être la matière qui l'accompagne, qui est les intrants. Est-ce que tu vas? Donc c'est ça, aujourd'hui, s'il y avait la pluie jusqu'à la fin, et on a une disposition d'entrain, est-ce que tu vas, qui est mis en place, ça veut dire qu'on n'aura pas de problème.
Est-ce que le gouvernement nigérien a pris les dispositions pour accompagner les agriculteurs, y compris vous qui êtes le président de la plateforme paysanne, pour essayer de vous accompagner, à vous aider dans votre noble tâche?
Effectivement, c'est ce que tu viens de dire. Cette année, l'État a mis à la disposition des organisations paysannes, à travers l'agriculture, des semences de qualité. Et ces semences-là ont été déjà distribuées au niveau des 13 départements. Et à ma connaissance, c'était parti même dans les mains des organisations paysannes. Donc ça veut dire que les gens ont semé avec les semences de l'État. C'était même une première, parce qu'avant, c'est après semis qu'on nous envoie les semences. Ça veut dire que cette année, l'État a mis à la disposition de nous, en tout cas des semences de qualité qu'on a mis. Et les produits phytosanitaires sont déjà disponibles. Donc, en matière d'entrain, et vous le connaissez déjà que la réforme a pris le devant de l'engrais cette année. Donc, cette réforme-là a fait en sorte qu'on a quand même mis à la disposition des organisations paysannes des opérateurs économiques aujourd'hui, au niveau de chaque région, qui disposent de la région, qui ont déjà commencé à remplir leur magasin en matière d'entrain. Maintenant, c'est la charité. Ça, tout le monde le connaît. Comment ça se passe aujourd'hui, la charité de l'engrais, tout le monde connaît, c'est à l'échelle nationale. Ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la guerre qui se trouve à l'Ukraine. Et c'est l'Ukraine aujourd'hui qui nous fournit l'engrais, malheureusement.
Mais est-ce que à ce niveau... L'engrais que nous disposons ici au niveau national ne permettait pas aux producteurs nigériens vraiment de faire leur travail en bonne et due forme, comme ça se doit, que d'avoir un lien avec la guerre au niveau de l'Ukraine.
L'engrais que nous disposons cette année peut couvrir quand même la région. Ça, le problème ne se pose pas. Mais nous, on ne produit pas l'engrais. Au niveau du Niger, on ne produit pas l'engrais. On est obligé de prendre peut-être au Nigeria ou bien d'acheter avec les Européens. Donc, l'engrais qu'on achète, c'est à l'Ukraine qu'on achète l'engrais. Ça veut dire que si cette année, on arrive à avoir l'engrais, 2013, où est-ce qu'on va trouver ça, s'il y a pas la production?
Du fait de la charité et de l'inacceptabilité aussi de l'engrais, nous le connaissons tous. Est-ce que cela ne crée pas encore un autre impact sur la production du mil?
Ce qui crée l'impact par rapport à la production du mil en matière d'engrais, c'était la subvention. On est habitué à une subvention de l'État. Avant, c'est l'État qui subventionnait l'engrais Et l'engrais est subventionné, on le vend à 13 500 francs. Mais ça fait maintenant 2 ans que cette subvention-là a été arrêtée. Est-ce que tu vas? Donc aujourd'hui, quand tu vas, avant c'était à 13 500 le sac d'engrais. Aujourd'hui, quand tu vas sur le marché, l'engrais, aujourd'hui, il est vendu à 26 000, 27 000 francs. Donc ça veut dire que c'est un problème. Un pauvre paysan qui n'a rien, comment lui peut, même si on dit que l'engrais est disponible, comment lui peut acheter l'engrais? Il ne peut pas. Et la suite encore, quand tu regardes avec l'insécurité, les gens n'ont que les vaches et les chèvres pour vendre et pour accompagner, comment dirais-je, l'hivernage. Mais ça, là, il n'y a pas cette année. Ça fait 2 ans que nos pauvres paysans ont été, je ne sais même pas comment qualifier ça, ont été pris par leurs propres animaux. Ça veut dire que les gens n'ont rien pour pouvoir acheter. Et ce problème-là, ça se pose. Ce qu'on demande maintenant, peut-être, c'est cette subvention-là. Il faudrait que l'État ramène la subvention parce que c'est la même chose qui se passe, et comment dirais-je, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'État devrait vraiment voir comment il va faire pour nous appuyer par rapport à la subvention.
Monsieur Adamou Issaka de l'INERA, qu'est-ce que c'est que le miel pour vous?
Merci. Le miel est un animal de base que les Nigériens utilisent beaucoup. Avec le miel, ils font la pâte. Avec le miel, ils font de la bouillie, du dambou. Avec le miel, je peux dire que c'est un aliment de tous les Nigériens. De tous les Nigériens que je dis. Donc, pour cela, je conseille aux Nigériens de bien produire du miel, de mettre leur égard vers le miel. Donc, si nous n'avons pas de miel, nous mourrons. Donc, les Nigériens doivent se baser sur le miel.
Outre le facteur aliment ou le facteur alimentaire, est-ce que représente encore le miel pour vous? À quelle fin utilisez-vous le miel?
Nous utilisons le miel pour les animaux, les bétails, la tige et le débris là pour fabriquer des briques. Je peux dire que le miel est un aliment très, 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 très efficace dans tout le Niger.
Alors, quelles sont les différentes variétés de miel qu'on cultive dans la région de Tillabéri?
Ici, au Niger, je peux dire qu'on n'utilise que du HKP. HKP, c'est le miel précoce. Miel précoce, qu'on dit, qui fait à peu près 3 mois, à peu près. Du semis à la récolte. Parce que tous ces derniers temps-là, les paysans ont même abandonné parce que la production du HKP a diminué. Pourquoi? Il y a des paysans qui disent que ça mûrit vite ou bien pour les oiseaux. Là aussi, c'est une mauvaise idée parce que dans notre zone, il y a moins de pluie. 3 mois, 2 mois et demi.
Donc, c'est la seule variété dans la région du Tillabéri qui se fait.
Ils n'utilisent que. Il y a leur local aussi. Local, ça dépend. La locale, là où nous disons la locale, il n'a pas de nom. Il y a des variétés qui ont des noms comme Drankoba.
Eh oui, qu'est-ce que c'est aussi?
Drankoba, c'est du miel, mais c'est tardif par rapport à le HKP. Mais le HKP, c'est une variété qu'on a croisée avec des variétés pour trouver le HKP.
Donc c'est une combinaison entre les deux.
Oui, des mille, je crois, l'HKP est provenant de Tira. C'est une variété provenant de Tira.
Adamou Issaka, laquelle des variétés que vous venez d'énumérer tout à l'heure, laquelle des variétés du miel proposeriez-vous aux cultivateurs et autres producteurs de la région du Tillabéri, y égard, bien sûr, aux effets et aux conséquences néfastes du changement climatique? Voilà.
Moi, je préfère que les gens, les paysans, utilisent le HKP, compte tenu du changement climatique.
Et comment...
compte tenu du temps. Le temps, parce que vous voyez, aujourd'hui, nous avons semé, nous, dans notre zone, nous avons semé en juin. Vous voyez, en juin. De juin... juillet, août, septembre, octobre, on peut récolter. Parce que le mil HKP, même s'il est en floraison, mais s'il y a l'humidité ou les raisons, ça peut conserver et faire la graine. Ça peut produire aussi. Mais les locales qu'ils utilisent, ils ne résistent pas à la sécheresse. Parce que le HKP résiste à la sécheresse, résiste aux maladies, comme les borrelles de tiges, ou les charbons là qui apparaissent sur les épis. Tout ça, c'est pour cela que je conseille aux paysans d'utiliser le HKP. Il y a le goût aussi. Merci.
Et au niveau des tiges, c'est comment?
Au niveau des tiges, c'est mieux que le sorgho. Ça fait engraisser les animaux que le sorgho. Mais les paysans ne veulent pas. Mais nous, moi qui connais, les tiges de mil est plus efficace pour les animaux.
Merci, M. Adamou. Nous allons revenir vers vous. Commandant Madougou Seigne, quelles sont les différentes dispositions prises à l'échelle régionale pour atténuer ou faire face aux conséquences du changement climatique?
Donc, par rapport aux dispositions prises, donc comme vous le savez, je peux même le prendre un peu sur l'échelle nationale, l'État a pris beaucoup de mesures et de dispositions pour y faire face. Donc, au niveau de la région de Tillabéri, il y a des cadres de concertation qui sont créés dans le cadre, comment ça s'appelle, de la lutte ou bien de l'adaptation au changement climatique. Il y a la plupart, si on parle des PDC au niveau communal, qui ont acclimaté. Qui ont acclimaté leur PDC. C'est-à-dire le plan de développement communal. Ils ont acclimaté ce plan de développement communal-là pour pouvoir tenir compte dans les actions à entreprendre, les effets du changement climatique pour y faire face au niveau de leur commune. Il y a le PDR qui est en élaboration au niveau du conseil régional et aussi ils vont en tenir compte. Vraiment, il y a tout un dispositif de suivi qui est là. Il y a un certain nombre, beaucoup d'ONG et programmes qui interviennent dans le cadre du changement climatique. Donc voilà au niveau de la région comment ces différentes dispositions sont prises pour y faire face à ces changements climatiques, pour permettre à la population de s'adapter à ces changements climatiques.
Est-ce qu'il y a-t-il des actions d'atténuation du changement climatique d'autres?
Là, donc, il y en a plusieurs types d'actions dans le cadre de ces changements climatiques au niveau de la région. Donc, il y a eu des interventions à travers des ouvrages anti-érosifs suivis de plantations. Il y a eu, beaucoup d'ONG et projets qui ont intervenu pour faire un certain nombre d'actions dans la région. Il y a eu la construction des barrages pour pouvoir, retenir l'eau pour l'utilisation de l'irrigation, pour l'utilisation des animaux et pour faire une autre activité, et même pour les ménages. Donc, à titre d'exemple, on a beaucoup de barrages depuis, de 2000 à aujourd'hui, on a beaucoup de barrages qui sont vraiment construits dans la région. Si on prend à côté, ici, à Alzou, il y a un barrage qui a été construit pour pouvoir retenir l'eau pour l'utilisation de la population, pour faire l'irrigation et aussi pour permettre aux animaux de s'abreuver sans parcourir une grande distance. Donc, à part ça, il y a des ouvrages anti-érosifs. Ça, vous rencontrez ça un peu partout. Il y a des plantations dans ces ouvrages-là. Il y a l'ensemencement, ça aussi. Donc, il y a même des plantations dans beaucoup de villes et villages pour pouvoir protéger ces villes et villages. Donc, il y a même le programme Un village, un bois. Ici, nous, on l'avait installé ici à Sakwara pour pouvoir protéger ces localités et avoir leur quantité en bois. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a des programmes ou bien des projets qui ont passé. D'autres ont fait même des jardins de ménage pour pouvoir y faire face. Donc c'est un petit jardin avec une petite quantité d'eau. Donc au niveau du ménage, on peut arroser et cueillir tout ce qu'on a comme feuilles vertes ou feuilles fraîches pour les besoins de la famille. Parce que à cause, comment ça s'appelle, de la rareté des pluies, qui font en sorte que même leurs pluies sont, comment ça s'appelle, la nappe n'est pas recherchée. Donc à cause de ça, ils n'ont pas accès à l'eau comme ils veulent. Donc avec une petite quantité d'eau, ils peuvent arroser ces jardins-là et trouver les feuilles vertes durant toute l'année. Il y en a vraiment beaucoup d'actions, beaucoup d'activités qui ont été menées à l'occasion, vraiment pour y faire face à, comment ça s'appelle, pour atténuer le changement climatique dans la région.
Donc, est-ce que, mon commandant, vous êtes accompagné par la population dans la réalisation des différentes actions que vous venez d'énumérer tout à l'heure?
Oui, exactement. Maintenant, l'approche, c'est l'approche participative qu'on utilise. Donc, on vient, on fait les diagnostics. Donc, au niveau local, donc, ils vont exprimer leurs besoins. De quoi ils en ont besoin? Donc, sur un certain nombre de technologies d'atténuation au changement climatique. Maintenant, c'est la technologie choisie par une communauté. C'est à travers ça qu'on les accompagne pour qu'ils s'approprient de ça. Parce que ce n'est pas le fait de venir mener une activité. Il faut vraiment que l'action soit pérenne. Même nous, on a vraiment une vision sur ça. Il faut que l'action soit pérenne. Parce qu'il ne faut plus... Parce qu'à cause de ça, actuellement... Nous sommes en train de faire, d'élaborer des plans de gestion, par exemple, de tous les sites récupérés, pour avoir tout ce que le site récupéré va régénérer comme ressources. Ça revient à la communauté. Donc vraiment, c'est pour qu'ils puissent gérer ça à leur niveau et que le site récupéré maintienne toujours sa forme initiale et que ça soit bénéfique pour la communauté et que ça ne retourne pas ou comment ça s'appelle, comme au temps initial ou quand on l'avait laissé. Il y a un décret ministériel pour ça, que, comment ça s'appelle, pour l'élaboration de ces plans d'aménagement au niveau même des sites récupérés.
Est-ce que vous êtes aussi accompagné par la société civile active ici à Tillabéri dans vos différentes actions?
Exactement. Nous sommes accompagnés par la société civile parce qu'ils organisent des fois des plantations où ils nous invitent. Juste, ils nous invitent, nous, on participe, on les appuie. Donc, vraiment, nous faisons ça en collaboration avec la société civile.
Donc, Rabahana, face à la croissance démographique et à la demande alimentaire en hausse, l'agriculture sensible aux risques climatiques est au cœur de la réponse du gouvernement nigérien. Comment s'y adapter?
C'est ce que je suis en train de revenir. J'ai dit qu'on est obligé de s'adapter à ce changement climatique parce qu'aujourd'hui, la recherche a fait ressortir des variétés aujourd'hui qui ont des cycles très courts. De telle sorte que, et vous l'avez entendu tout de suite, il a dit qu'ils ont deux variétés peut-être qu'ils ont ici, HKP ou bien comment on appelle l'autre variété. Aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est le SKP qui est utilisé quand même au niveau de la région de Tillabéri. Mais quand même, il y a une autre variété qui a un cycle de 2 mois. Peut-être la recherche a oublié cette variété-là, j'ai quand même oublié le nom. Cette variété-là est plus pratiquée dans la région de Tillabéri que les autres. Donc c'est cette variété-là qu'on est en train de chercher à faire adopter à ce changement climatique pour pouvoir faire la production et rehausser encore cette production que l'État nigérien est en train d'attendre.
Parlant de cette variété, comme vous le disiez, vous pouvez nous donner un exemple ici dans la région de Tillabéri, peut-être de quelques agriculteurs qui ont utilisé et qui ont vu également ces effets bénéfiques.
Effectivement, quand tu pars à Balayara, et c'est une variété de courte taille même. Je ne sais pas, c'est une variété de courte taille et ça a été testé au niveau de l'INERA. Mais aujourd'hui, la production, c'est surtout à Belayara qu'on est en train de faire ça. Et cette variété a fait la fierté du département de Belayara. Et c'est ça que nous sommes en train d'utiliser de Terra jusqu'à Filingué.
Et ces effets bénéfiques, comme vous le disiez, on les range de quel côté au niveau...
C'est la production. On les range vers la production. Parce que qu'est-ce qui nous intéresse, nous, c'est la production. Une variété qui a un cycle très court par rapport à ce changement et une variété aujourd'hui qui produit beaucoup. C'est tout ce qui nous intéresse.
Quel conseil pour les agriculteurs et autres producteurs de mil de la région de Tillabéri?
Le conseil, c'est de s'adapter par rapport à ce changement climatique et chercher des variétés qui ont des cycles très, très courts pour pouvoir mettre. Parce que quand tu regardes avec ce changement climatique, la région de Tillabéri ne connaît pas une pluviométrie de 3 ou 4 mois. C'est des pluviométries de 2 mois. Si tu n'as pas une variété de 2 mois, est-ce que tu peux récolter? Tu ne peux pas récolter. Donc, on devrait s'adapter à ces variétés-là qu'on est en train de nous donner.
Est-ce que les cultivateurs et producteurs sont conscients de cet enjeu?
Ils sont conscients parce que je suis en train de parler à leur nom. Moi, je suis un producteur. Je suis un cultivateur. Je ne suis pas un technicien. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, quand je parle aujourd'hui, je parle au nom de la région. Quand tu regardes du village jusqu'à la commune, jusqu'au département, on a des représentants. On s'appelle, on se communique. Peut-être quand la pluie même, on sait combien de villages ont semé et combien peut-être ça reste qui n'ont pas semé. Ça veut dire que tout le monde est conscient de ce changement climatique et on est obligé de s'adapter.
La question liée à l'accès de l'engrais de mar, l'une des préoccupations majeures des cultivateurs du mil. Comment l'expliquer?
Oui, c'est ce que je viens de dire au tout début. C'est un problème phare. Aujourd'hui, avant, on n'utilisait même pas l'engrais. C'est le fumier. Tu as des animaux, tu récoltes, tu amènes tes animaux sur ton champ et c'est les animaux qui vont faire l'engrais dans ton champ. Est-ce que tu vas? Mais les choses ont fait en sorte que ces animaux n'allons plus. Les gens seront obligés d'utiliser cet engrais-là. Et l'engrais, aujourd'hui, il n'y a pas d'engrais. Le peu qu'on a est très cher. Donc, cette charité-là est venue par rapport au changement climatique de 1 et par rapport au système de l'Afrique de l'Ouest qui se passe. Les conséquences qui se passent au niveau de l'Afrique de l'Ouest et même en Europe, que vous connaissez tous. Est-ce que tu vas? Quand tu regardes aujourd'hui, avant, l'engrais ne coûte pas cher. Et aujourd'hui, l'engrais a un système qu'un pauvre paysan ne peut plus acheter.
En tant que représentant des producteurs et cultivateurs, vous, qu'est-ce que vous conseillerez également à vos confrères d'utiliser pour accompagner l'engrais? Comme vous venez de le souligner, l'engrais devient de plus en plus très cher.
Oui, c'est le conseil que je donne. Et tout de suite, quelqu'un a parlé des tiges. Nous-mêmes, on est en train de faire du mal à nous-mêmes parce que dès qu'on récolte, les gens s'y mettent à lever les tiges-là. Et ça approvit le sol. Et ça comment on appelle ça? Ça approvit complètement le sol. De telle sorte que si tu laisses les tiges là, tu laisses les animaux faire le pâturage sur ton champ, ça veut dire que ton sol est encore alimenté par ces animaux-là. Donc, il faudrait qu'on revienne sur l'ancien système. Est-ce que tu vas chercher du fumier de fond et verser au niveau des champs pour pouvoir mettre en valeur ces champs-là?
Monsieur Adamu Issaka, pourquoi certains cultivateurs hésitent encore à utiliser les semences de...
Ils hésitent parce que, compte tenu de la précocité, parce que si dans la zone, toi seul tu as du HKP et les autres ont les variétés tardives, la chasse oiseaux sera dure pour toi. Parce que le temps que le HKP a en épiaison ou est grainaison, l'autre n'est pas fleur ou grainaison, les oiseaux ne tapent que le HKP. C'est à cause de ça que les paysans ne veulent pas trop le HKP. Bon, le conseil que je les ai donné, moi-même de mon prof, parce que je les ai conseillés dans l'ensemble. Ils n'ont qu'à se baser. Si dans une zone de 100 paysans ou 200 paysans utilisent le HKP, est-ce que les oiseaux peuvent le faire?
Mais est-ce que les semences améliorées, les gens
adore également ou critique selon vos observations, le goût ou bien peut-être la taille, je ne sais pas, les tiges ou bien quelque chose comme ça. Quelle remarque ou bien quelle explication donnez-vous dans ce sens?
Bon, compte tenu...
Pour prendre ça.
Ce n'est pas qu'ils n'adoptent pas ça, hein, je dis. Ils vont adopter, mais ils craignent à la chasse d'oiseaux. Ils craignent à la chasse d'oiseaux. Parce que notre zone, la zone de Tillabéri, c'est un endroit qui a trop d'oiseaux. Qui a trop d'oiseaux. Parce que moi, en habitude, une année que j'ai fait ça, je n'ai rien récolté dedans. Même un épi, je n'ai pas récolté.
Et on peut savoir pourquoi?
Parce que ça... Et la mûri avant que...
Dans certaines localités, les techniciens initient des champs écoles pour essayer d'expérimenter les variétés de miel.
Oui.
Est-ce que ici ça existe?
Ça se fait.
En début de campagne, nous cherchons des paysans village par village qu'on les amène des variétés, miel ou sorgho, qu'on les sème le même jour. On dit aux paysans, voilà, c'est à toi de choisir ou bien de suivre les variétés là, voir la variété la plus précoce et la plus tardive. Vous voyez, c'est ça qui nous a permis même d'avoir le 1000 HKP là. Parce que actuellement que je suis de Lossa, j'ai fait Sona, j'ai fait Dalwai, j'ai fait Koubikire, et même Lossa, j'ai choisi des paysans avec lesquels j'ai fait des champs d'école. Tous les paysans là ont parlé sur le HKP. C'est leur choix. Je les demande pourquoi. Ils disent que c'est précoce, ça résiste à la sécheresse, ça résiste aux maladies. C'est pour cela que j'ai choisi le HKP dans ces zones-là.
Que faire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dans la région de Tillabéri?
Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dans toute la région de Tillabéri, il faut que le paysan se base sur la production du miel. Le miel. Parce que je vous ai dit que d'avance que le miel est un aliment de base. Qu'est-ce qui nous amène à ces faillites-là? On ne produit pas. Monsieur Madou a parlé sur le changement climatique. Nous avons des courtes pluies. De 2 mois ou 3 mois. Vaut mieux qu'on cherche les variétés les plus précoces à deux mois et demi. Voilà, tu peux manger, mais notre zone, tout le monde le savait. Actuellement, je peux dire que si nous avons 2 fois, je vous le jure qu'on a l'habitude de semer en août. En août, je dis, hein, août, septembre, octobre. Voilà, on a semé du HKP qu'on a récolté. Voilà, je te dis. On a semé du HKP, on a récolté ça. Il y a certains paysans qui n'ont rien eu, qui ont mis la locale. Yanga, je conseille aux paysans de produire ou de semer le miel le plus précoce.
Parce que vous voulez une production conséquente pour pouvoir nourrir par la région au niveau national. C'était le problème de l'engrais, on fait un appel à l'État pour que l'État revienne sur la subvention de l'engrais. Nous, c'est la seule option qui va nous aider à bousquer cette production-là. Si l'engrais est moins cher dans le Niger, je te dis que la production, inchallah, les paysans sont prêts à pouvoir faire ça. Quand tu regardes le Mali qui est à côté de nous, avant-hier, le président de la République a diminué
le prix de l'engrais. Le sac de l'engrais est vendu à 10 000 francs, avec tout l'embargo qu'on a posé pour le Mali. Donc pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? On n'avait pas d'embargo, on n'avait rien. Donc nous demandons à l'État nigérien, surtout le président de la République, en tout cas de peut-être écouter ces émissions-là qu'on est en train de dire et qu'il vraiment il nous aide à pouvoir revenir sur la subvention de l'engrais. Même si c'est sur l'ancien prix de 13 500, ça va nous aider à un peu bousquer, comment dirais-je, la production du mil. Et quand on regarde aujourd'hui les variétés qu'on est en train de nous donner, ça aussi, il faudrait faire recours à la recherche pour qu'ils nous proposent des variétés très précoces, plus précoces, pour qu'ils s'adoptent à notre région.
Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, le commandant Madougou de la Direction régionale de l'environnement de Tillabéri, M. Rabaha Hanna, président de la plateforme paysanne au titre de la région de Tillabéri, et M. Adamou Issaka de la Direction régionale de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INERAN de Tillabéri. Ce qu'il faut retenir de ces échanges, ce que le gouvernement nigérien est appelé à créer, les conditions pour le meilleur accès des agriculteurs et autres producteurs du mil et des intrants tels que les engrais, les pesticides, les semences de variétés améliorées et un encadrement technique. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute et merci aussi à la technique assurée par Ali Issoufou. Au revoir.